Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de l'heure du crime, Justine Vigneault, Laure Broulard, et puis aujourd'hui c'est Alexandre Cagzan qui est aux manettes techniques de cette émission. À la une, vous l'avez entendu, vous avez d'ailleurs peut-être découvert cette affaire, ses tenants et ses aboutissants incroyables, le mystère de la baie d'Antibes, on va appeler l'affaire comme cela, l'histoire de ces os retrouvés par un pêcheur d'oursin, et puis après il y a des analyses ADN, et on se dit mais est-ce que ce ne serait pas finalement, en tout cas, est-ce que certains de ces ossements ne seraient pas d'un garçon qui avait disparu à l'âge de 17 ans en 1994, pas du tout dans cette région, en Seine-et-Marne. Donc c'est vraiment bizarre, puis après les autres analyses plus fines encore qui viennent dire, ben non, finalement on s'est trompé, c'est possible. On va parler de ça d'ailleurs tout à l'heure, de ces recherches sur les ossements anciens, les difficultés que ça pose aux spécialistes, avec le professeur Bertrand Lude. Il est directeur de l'Institut médico-légal de Paris, et nous l'aurons au téléphone vers 3h moins le quart pour nous dire justement comment est-ce que l'on fait scientifiquement pour essayer de faire parler des débris humains, des ossements humains, et en plus quand ils sont retrouvés sous l'eau, est-ce que ça pose des difficultés supplémentaires. Le dossier, on va l'aborder avec Cindy Hubert du service police justice d'RTL. Bonjour Cindy.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation, parce que le service police justice d'RTL évidemment a suivi cette affaire de près et ses multiples rebondissements. Donc on compte sur vous pour faire le point, pour nous expliquer comment on a pu se tromper aussi lourdement, et puis quel est l'état du dossier actuellement. On reviendra ensemble, bien sûr, sur l'histoire de ce garçon, Stéphane Hirson. On reviendra avec l'avocat de la famille, parce que si on se met à la place de cette famille, souffrir de la disparition de quelqu'un pendant près de 20 ans, apprendre que peut-être on a retrouvé une partie de son squelette, et puis apprendre ensuite que, bah non, finalement, on s'est trompé. Je compte beaucoup aujourd'hui sur maître Didier Seban. Bonjour, maître.
Bonjour.
Pour nous dire, comment ce dossier est arrivé, comment vous avez été amené à vous en occuper, et puis aussi peut-être de l'intérieur, de parler de cette famille. Et on aura un membre de la famille qui est en fait une cousine du disparu, de Stéphane Hirson, s'appelle Valérie Cormier Magramer. Elle se mobilise depuis le début, vraiment pour faire en sorte de glaner toutes les informations possibles sur ce qui a bien pu se passer à l'époque. Elle nous dira quel est son état d'esprit actuel. Elle continue à lancer des appels aux témoins. Ben, nous les relayerons, bien sûr, dans cette émission. Voilà, vous savez à peu près tout pour le dispositif. Tout de suite, on va écouter un premier document RTL. Ce document date du 6 novembre 2013. Vous voyez, c'est quand même assez récent. Et c'est ce jour-là qu'on apprend successivement que 9 mois plus tôt, en février de la même année, on a trouvé ces fameux ossements dans la baie d'Antibes. Et puis c'est ce jour-là également qu'on apprend que les premières analyses ADN sur une partie, en tout cas, des ossements semblent révéler qu'ils appartiennent, ou que l'un d'entre eux appartient à ce garçon. Et c'est sur l'antenne d'RTL les explications qu'on va entendre maintenant de Damien Delceni.
C'est donc par 10 mètres de fond, au large du cap d'Antibes, qu'une partie du mystère qui entourait la disparition de Stéphane Hirson a été levée. 19 ans après, un fémur portant son ADN a été découvert. On ne sait rien pour l'instant sur les causes et les conditions de sa mort, surtout que les enquêteurs ont d'autres énigmes à résoudre. Au même endroit, deux autres fémurs, un morceau de mâchoire et un crâne portant l'inscription « mort au pédophile » ont été découverts par les plongeurs. Ces restes n'appartiennent pas à Stéphane Hirson, mais à au moins 3 personnes différentes, non identifiées pour l'instant. Il reste encore beaucoup de mystères autour de ce cimetière sous-marin. D'autres plongées dans le même secteur vont avoir lieu pour tenter de retrouver d'autres ossements. Le cap d'Antibes n'a peut-être pas livré tous ses secrets.
Voilà, alors Cindy Hubert, là, c'est à vous, parce que là, évidemment, Damien Delceni raconte, donne les explications qu'on peut donner ce jour-là. Et vous avez suivi le dossier par la suite. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce que disait Damien à l'instant ?
Donc, c'est un pêcheur d'oursin hein, qui est parti en chercher des oursins à la pêche, ouais. Au pied de la falaise du Cap Gros, qui longe un sentier très connu, hein, où il y a des maisons de milliardaires, charmants décors, ouais. Et il tombe sur ses os. Immédiatement, il y a les gendarmes.
Il les aperçoit, quoi.
Il les aperçoit. Ouais, ouais. Évidemment, il ne les touche ouais. pas. Ouais. Les gendarmes vont aller plonger, vont aller les chercher. Ils aperçoivent d'abord, en fait, une partie de mandibule, donc de mâchoire, hein, ouais. coincée entre deux rochers. Mm-hmm. Et ils vont finir par récupérer, donc, plusieurs ossements, un fémur, deux humérus, un crâne, et donc cette partie de mâchoire.
Ouais.
On va analyser ces ossements. Et on va trouver. Alors la mâchoire, on n'arrive pas à savoir quel ADN il y a dessus. Ouais. Mais ces ossements appartiennent à quatre personnes différentes.
D'accord. Donc ça vous confirme.
Deux hommes, mmh. deux femmes.
D'accord. Et on a même pu, les spécialistes ont même pu cadrer pratiquement l'âge ou en tout cas une fourchette d'âge, moins de 30 ans pour les femmes.
Alors, et moins de 50 pour les hommes, c'est ça ? Et moins de 50 pour le crâne.
Ouais. Alors avec une particularité sur ce crâne dont il faut parler maintenant.
Alors sur le crâne, sur le haut du crâne, il y a une cible qui a été dessinée à l'encre indélébile et surtout sur le front du crâne, c'est marqué mort au pédophile et évidemment c'est cette inscription qui va intriguer ouais. tout le monde.
Alors évidemment la grande question qu'on se pose c'est comment ces ossements sont arrivés là ? Est-ce qu'on a découpé des gens en morceaux et qu'on a jeté leur corps en se disant que les poissons allaient les manger ? Est-ce qu'ils ont été enterrés ? Quelles sont les hypothèses qu'on a émises à l'époque ?
Alors ce qui est très intriguant c'est qu'il y a un seul os par personne. C'est ça qui est... Mmh. Est-ce que ces ossements se sont retrouvés là ensemble par hasard ? C'est un endroit où il y a de forts courants. Est-ce que depuis combien de temps on les a jetés ? Est-ce que quelqu'un a déterré des os dans dans un cimetière et les a jetés là ? Est-ce que c'est quelqu'un qui les a...
Une sorte de sinistre blague, quoi, en fait. Ouais. Blague est difficile. Le mot blague est difficile à exprimer, évidemment. Bon, on s'est posé cette question-là, oui. Ou alors les eaux de ruissellement, peut-être aussi, avec les pluies très importantes qui avaient eu lieu...
Est-ce qu'il y a un lien entre ces ouais. ossements est-ce ouais. que quel est le lien entre ces personnes ? Est-ce que ce sont toutes des personnes qui ont été un jour disparues ? C'est évidemment des questions qu'on va se poser.
Alors évidemment le premier rebondissement, il a lieu le même jour puisque Damien Delceni faisait allusion, on l'a dit, simultanément on apprend tout ça et on apprend que les analyses donnent l'identité peut-être au moins de l'une des personnes dont on a retrouvé des ossements, ce garçon Stéphane Hirson. Alors RTL donne la parole évidemment. C'est Julien Fautrin qui l'enregistre à Grasse. Il s'agit du procureur de la République de Grasse, Georges Gutiérrez, qui ne peut que constater qu'on est dans une affaire bien mystérieuse.
Pourquoi ces os se trouvent-ils à cet endroit ? Pourquoi n'en trouve-t-on qu'un seul à chaque fois et non pas des parties entières de squelettes ? Pourquoi y a-t-il cette inscription sur le crâne ? Pourquoi ce garçon qui disparaît dans la région parisienne se retrouve-t-il ici ? Il y a mille questions sur cette affaire.
Alors, on va faire une première pause. Évidemment, que vous découvriez l'affaire aujourd'hui ou que vous en ayez entendu parler, que vous ayez peut-être connu Stéphane Hirson ou sa famille, n'hésitez pas à poser vos questions au 3210 pour le téléphone ou sur rtl.fr si vous préférez nous envoyer des courriels. Et après la pause, on va revenir au 11 février 1994. C'est le jour où Stéphane Hirson avait disparu en Seine-et-Marne.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, le mystère de la baie d'Antibes, l'affaire Stéphane Hirson. Et on va laisser de côté pendant quelques minutes cette découverte macabre du mois de février 2013, ces ossements découverts par un pêcheur d'oursins, comme nous le racontait Cindy Hubert il y a un instant. Cindy Hubert, donc du service police-justice d'RTL, qui suit l'ensemble de ce dossier pour RTL. Et on va tout de suite donner la parole à maître Didier Seban. Dans un instant, on aura quelqu'un de la famille de Stéphane Hirson, Valérie Cormier-Magramère. Avant de savoir s'il y a un lien entre les deux affaires, maître, est-ce qu'on peut revenir sur cette date du 11 février 1994 ? On est en Seine-et-Marne, à Lagny-sur-Marne, et il y a un garçon qui a 17 ans, je crois, il va presque avoir 18 ans, qui s'appelle Stéphane Hirson. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Et qui est ce garçon ?
Stéphane Hirson est un garçon qui est tout proche de sa majorité, vous l'avez dit, qui est à la recherche d'emploi, qui vit encore chez ses parents, qui dit à sa mère que il va rejoindre un ami à ce moment-là pour aller faire des démarches à la NPE. Il part à 7h30 du matin, donc au départ tout est normal.
Bon, c'est un garçon. Il a rendez-vous avec cet ami à 7h30 du matin à la gare.
Il doit partir de chez lui, voilà. Et le rejoindre. Et effectivement, c'est un garçon qui a eu à des moments des troubles psychiatriques, qui a été hospitalisé, qui a eu des difficultés avec la drogue, semble-t-il, ou des problèmes de ce type, mais c'est pas un garçon, c'est malgré tout un garçon qui n'est pas du tout en situation de se...
C'est pas un délinquant, c'est quelqu'un qui a pu être un peu violent verbalement, mais enfin, bon, c'est pas un assassin, on est bien d'accord.
Rien à voir, ni un pédophile, rien dans son dossier.
Ah oui, à cause de l'inscription, bien sûr.
Rien dans son dossier ne fait ressortir quoi que ce soit de ce type, ouais. et donc il ne revient pas, l'ami ne le rencontre pas, la famille est sans nouvelles. Il est parti sans vêtements, sans papiers, sans argent. Enfin, il est habillé naturellement,
oui, bien
mais
sûr,
rien
oui.
de rien oui. qui
pas
donne l'idée
rechange,
qui,
pas de...
qui va faire une fugue ou qu'il a prévu de s'éloigner de chez lui. Et puis sa famille commence à s'inquiéter. Elle a quand même l'idée qu'il a pu partir parce qu'il y avait un projet de partir en vacances. Donc il a pu partir en vacances à la montagne parce qu'il devait rejoindre quelqu'un. Il en était question. Donc elle met quelques jours à saisir les services de police de cette fugue. Et puis là, elle saisit les services de police, mais au moment où elle les saisit, il est majeur. Puisqu'il était à une semaine de sa majorité.
Et on est en 1994, donc la notion vraiment de disparition inquiétante n'est pas encore dans la tête des enquêteurs, ni des services de police ou de gendarmerie.
Elle n'est vraiment pas dans cette tête-là, donc aucune enquête n'est vraiment menée à cette époque-là. Il va être inscrit au fichier des personnes disparues, mais vous savez bien que ce fichier n'a jamais vraiment servi à grand-chose. Et on en enquête. Après, la famille qui en 2003 s'adresse notamment à l'office central, prend contact avec une association. Nous, avocats de la famille d'Estelle Mouzin, nous la verrons à chaque rassemblement pour Estelle Mouzin. Lagny n'est pas loin de Guermantes.
Ah oui, c'est en
Seine-et-Marne. Et donc la famille là commence à refaire bouger les choses. On s'aperçoit que il n'a laissé aucune trace depuis sa disparition, ni sur son numéro de sécurité sociale, ni à un quelconque service administratif. Alors, on est dans une société où normalement on laisse des traces quelque part.
Ouais. Et donc, il n'y a pas de traces de ce garçon.
On cherche partout toutes les traces, rien. Et puis finalement, on va faire une petite enquête préliminaire, mais aucun juge d'instruction ne sera chargé du dossier jusqu'au moment où on découvrira ses ossements.
Alors, on va prendre rapidement, on la retrouvera plus longuement après, mais rapidement d'abord, Valérie Cormier, ma grand-mère, vous êtes là, madame ?
Oui, bonjour.
Vous êtes la cousine de Stéphane Hirson. Vous, on peut dire que vous menez le combat, quoi, depuis le début avec l'espoir de le retrouver vivant un jour, hein.
Tout à fait. De toute façon, l'espoir est toujours là. Et pour moi, Stéphane n'est pas mort. Tant j'ai pas un corps qui soit vivant ou mort, pour moi, il est toujours en vie. Il est toujours avec nous. Et je continuerai mon combat jusqu'au bout.
Ouais. Vous avez créé un groupe Facebook Avis de recherche Stéphane Hirson. On y reviendra tout à l'heure parce que vous avez des questions précises à poser. Il faut en profiter puisque cette émission s'adresse quand même à pas mal d'auditeurs d'RTL. Sûr. Mais d'abord, juste un mot avant la pause qui arrive. Juste un mot pour dire, il y a eu quand même dans cette affaire-là, l'affaire de la disparition de Stéphane, un espoir important qui est peut-être pas encore complètement abandonné, en tout cas par vous. Quelqu'un vous a dit, mais je l'ai vu gratter de la guitare quelque part dans Paris ?
Tout à fait. Moi, j'étais partie l'année dernière, à cette époque-ci, j'étais encore avec cette idée, cet espoir qu'on l'avait vu au métro Châtelet-Léal, partie RER.
Et qui vous a dit ça et qui a pris contact avec vous ?
Un ami de Stéphane, qui le connaissait, un ami d'enfance, voit un groupe de musiciens qui jouent du tam-tam. Et dans ce groupe, il y a une personne qui n'est pas de couleur, qui joue du tam-tam et qui ressemble fortement à Stéphane. téléphone.
Ouais.
Il prend contact avec une association qui après, cette association qui est devenue des amis aussi, me contacte et m'envoie la vidéo de cette de ce qu'il a pris.
Cette vidéo parce qu'il a pris avec son téléphone. Donc voilà. ça remonte à quand cette ce témoignage?
Eh bien, en 2013.
Ah oui, donc
mai, juin 2013.
C'est très récent en fait, oui.
C'est très récent.
Et alors la vidéo, vous l'avez vue évidemment, vous?
Je l'ai vue, fait circuler dans la famille et tout le monde était très interloqué.
Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une ressemblance, quoi, pour vous.
Il y a une ressemblance. Ouais.
Mais ce garçon, qui est un ancien camarade de Stéphane et qui connaissait sa disparition, n'est pas allé l'interroger, n'est pas allé parler au musicien.
Il était accompagné et il n'osa pas oser quitter la personne avec qui il était et il a juste eu le temps de prendre la vidéo. Depuis, moi, je suis montée à Paris parce que j'habite pas dans la région parisienne. Ouais. Je suis allée voir, j'ai vu ce groupe de tam-tam, mais je n'ai pas vu ce musicien-là. Mon cousin, un autre de mes cousins est monté voir un autre ami. Enfin bref, et une autre association. Voilà, plusieurs personnes sont montées. Ouais. Et à chaque fois qu'on est tombé sur ce groupe de musiciens, la personne qui ressemblait n'était pas là.
Ouais, d'accord. Mais vous avez montré la vidéo aux autres musiciens, vous leur avez demandé?
Non, j'ai pas vu parce que c'était difficile d'interrompre parce qu'ils n'arrêtaient pas de jouer au tam-tam et il y avait des filles qui dansaient avec. Donc voilà.
Ah oui, d'accord. Donc vous vouliez pas interrompre un spectacle, quoi, en fait.
Exactement. Ouais.
Bon. Voilà. Bah, écoutez, peut-être que des membres de ce groupe nous écoutent, hein, aussi.
Oui,
je joue pas du tam-tam 24h/24 dans le métro, hein. J'écoute peut-être RTL, on verra. Donc je rappelle, le téléphone, c'est le 3210. Vous pouvez aussi nous envoyer des courriels sur rtl.fr et on va vous retrouver, madame, dans quelques instants parce que vous avez un certain nombre de questions. On va vous, évidemment, évoquer avec vous les liens éventuels et ce que vous pensez de ce coup de théâtre. On a dit, mais les ossements, c'est l'ADN de Stéphane.
Oui.
Donc, on revient à vous, hein, dans un petit instant.
Merci.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime consacrée aujourd'hui à ce double, triple, quadruple mystère, on ne sait pas, et une affaire qui va certainement avoir des développements dans les semaines ou dans les mois qui viennent. En tout cas, on peut l'espérer. Découverte d'ossements en hiver 2013 par un pêcheur d'oursins dans la baie d'Antibes. Les plongeurs de la section nautique de la gendarmerie d'Antibes, d'ailleurs, vont exhumer et analyser ce qui pourrait être une scène de crime. On ne sait pas exactement. Et puis après, on bâtit des hypothèses, savoir d'où peuvent venir ces ossements. Il y a ce crâne avec une cible au sommet de la tête. D'ailleurs, à ce propos, Maître Seban, vous avez avec vous, vous avez apporté votre dossier et les photos de ce crâne. Vous avez une remarque à faire sur cette cible, parce que c'est comme on a dessiné une cible comme une cible dans lesquelles on tire dans les stands de tir, hein, c'est ça. Mais bon, c'est très effacé par l'eau, etc.
Oui, c'est très étonnant parce que ça a été marqué à l'encre indélébile, c'est-à-dire qu'on a voulu marquer les esprits, en tout cas, dans l'espoir peut-être que ce crâne soit retrouvé. Il y a des plongeurs, souvent, dans cette baie d'Antibes. Enfin, on peut imaginer que ça n'était pas la première fois que quelqu'un passait par là, donc que ces ossements n'y sont pas depuis des années et des années. Ouais. Et puis, cette cible est vraiment sur le haut du crâne, elle est tracée avec une précision, je veux dire avec une volonté de mise en scène quelque part, qui fait penser à quelqu'un qui aurait quelques connaissances médicales même.
Cas, voilà, des connaissances médicales et des connaissances de balistiques en fait. Voilà.
Bon, alors on a pensé à un moment donné que ça pouvait être une blague de carabin, vous savez, ces ossements qu'on examine quand on pour former les étudiants en médecine, sauf que les personnes qui ont été retrouvés, les ossements qui ont été retrouvés correspondent à des corps de 30-40 ans, quelquefois donc même plus jeunes, enfin pour l'un d'entre eux, et donc ça n'est pas compatible avec les corps qu'en général sur lesquels on expérimente quand on est étudiant en médecine. Donc il y a là dans le début d'une énigme qui est tout à fait exceptionnelle.
Alors, quand je disais double, triple ou quadruple mystère, il y a le mystère de ces ossements, il y a le mystère de la disparition de Stéphane Hirson, et le mystère du lien éventuel, parce que n'oublions pas donc le procureur de la République de Grasse qui reçoit les premières analyses. Alors évidemment, on fait jamais attention aux mots non plus, hein. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, Cindy Hubert, parce que on est porté un peu par l'émotion. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans ce que disait le procureur la première fois qu'il s'est exprimé?
Ce qu'on n'a pas entendu, c'est qu'il dit voilà, c'est a priori l'ADN de Stéphane Hirson à 99,95%.
Et voilà, 99,95%. Et bien parfois, malgré ce qui semble être vraiment comme disent les policiers, les gendarmes, un match entre une empreinte génétique et puis une trace qu'on a analysée, ben là, ça s'est révélé. Et on va se remémorer tout cela, cette partie de l'enquête, ce rebondissement, ensemble à travers un nouveau document RTL qui date du 16 décembre 2013, c'est-à-dire un peu plus d'un mois, on va dire, après la première annonce. Damien Delceni révèle d'ailleurs en exclusivité dans RTL Midi les conclusions définitives des expertises selon lesquelles, vous allez l'entendre, il l'explique très bien, l'ADN retrouvé dans des eaux analysées ne serait pas finalement celui de Stéphanie Hirson.
Il s'agissait d'un rapprochement entre l'ADN découverte sur cette eau et celui de sa mère. Mais ce rapprochement n'était que partiel et le rapport d'experts invité à la prudence. Reprenant l'enquête à zéro le mois dernier, les enquêteurs de la PJ de Nice ont donc effectué de nouveaux prélèvements sur les proches de Stéphanie Hirson, sa mère, son père et ses frères. Et le verdict des comparaisons est tombé la semaine dernière. Cette eau découverte au fond de la Méditerranée n'appartient pas à Stéphanie Hirson.
Et alors on s'interroge maintenant sur l'éventualité d'une manipulation.
Oui, d'autant plus qu'une expertise menée sur les autres ossements découvert à proximité, notamment un crâne et une vertèbre et qui porte un autre ADN, souligne un élément troublant. La vertèbre était fixée à l'envers, ce qui veut dire qu'une main humaine a manipulé cette partie de squelette. Du coup, les policiers s'interrogent sur l'aspect criminel de ce dossier qui pourrait être le résultat d'une plaisanterie morbide ou de découverte à l'occasion d'un chantier dont les ouvriers se seraient ensuite débarrassés en les jetant à la mer.
Alors, évidemment, on se dit qu'on aurait peut-être pu commencer par là, hein, Cindy Humer. Commencer par faire une analyse complète.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils font le rapprochement avec la mère sur la base d'un prélèvement de salive qui a été fait sur la précédente enquête, c'est-à-dire il y a des années.
Bien sûr.
Mais pour en être complètement sûr, ils vont demander au père et aux frères et sœurs pour compléter l'analyse. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ben non, en fait, c'est pas son ADN.
Voilà. Alors, j'imagine, là, je me tourne à nouveau vers Valérie Cormier, ma grand-mère. Ça a été quoi votre sentiment ce jour-là? De la colère, de la déception, de l'espoir quand même, parce que c'était redire que peut-être Stéphanie Hirson n'était pas mort?
C'est tout ça en même temps. C'est surtout beaucoup de colère d'apprendre ça par les journalistes et pas du tout par la justice ou la police.
Ah bon, vous l'avez appris d'abord par la presse, par la radio?
Oui, et quand il y a eu quand on a dit que c'était plus lui, en fait, qu'on a dit non, c'est pas lui au mois de décembre, je l'ai appris aussi par les journalistes avant.
D'accord.
Donc j'apprends plus par la presse que par la justice ou la police. Ça, c'est un premier élément de colère et de qui est indélébile. Et puis là, c'est me dire de toute façon c'est pas possible. Pour moi, Stéphane n'est pas mort. Je continuais et en fait j'ai bien raison. Il n'était pas mort. Enfin, ouais. En tout cas, ce n'était pas ce cas-là.
Oui, allez-y, je vous en prie.
Oui, et me dire que tout le monde, que j'ai eu même jusqu'à des condoléances de la part de personnes de droite à gauche, ça a été horrible pour tous. Les personnes qui ont contacté ma tante qui est en Espagne, ont contacté tout le monde pour nous dire cette chose.
Oui. Votre tante, c'est la mère de Stéphane.
Il y a eu des analyses qui ont été faites avant, effectivement, mais c'était pour savoir où est Stéphane. Enfin, c'était pas une enquête réelle, mais voilà, on a analysé ma tante et Stéphane n'a que deux frères, elle n'a pas de sœur, hein, donc c'était ça.
Ouais. Alors, Maître Seban est avec nous ici à RTL, au 22 rue Bayard. D'abord, qu'un laboratoire se trompe à ce point, ça reste quand même rare, j'imagine, non? Enfin, le laboratoire, il s'est pas trompé, c'est compliqué. Comment vous définissez ce qui s'est passé, maître?
Peut-être une envie de communiquer trop rapide, hein, dans cette ère de Twitter ou d'Internet. C'est-à-dire que, évidemment, quand on a un résultat de ce type, quand ça match, comme on dit, il faut vérifier et il faut prendre le temps de vérifier. Alors, il y avait une petite phrase aussi à lire dans le rapport, dans le rapport du laboratoire. Mais il concluait quand même de manière suffisamment claire en disant « Il est donc vraisemblable que l'os objet du scellé provient d'un fils biologique de Madame Estelle Magraner, avec une probabilité de maternité était de 99-95%. Alors après, il y avait un codici qui disait il faut vérifier, reprendre de l'ADN, et on va vite en besogne, parce que pour la famille, c'est évidemment les montagnes russes. D'un côté, c'est le drame, l'annonce du drame, et puis d'un autre côté, c'est l'espoir qui reprend. Donc vraiment, je crois que dans ce domaine-là, la prudence doit être la règle, d'autant que dans l'image du public, l'ADN, c'est la reine des preuves, et que si on a trouvé de l'ADN, c'est qu'on a trouvé la vérité.
Oui. Vous parliez de montagnes russes à l'instant, on va parler des réactions de la famille avec Cindy Hubert dans un instant, mais d'abord on va entendre Cindy, le point de vue que vous avez enregistré pour RTL de Claudine, qui est la tante de Stéphane. Alors ça, c'était après la première annonce, c'est-à-dire l'annonce qui disait il y a un lien à faire entre ce garçon qui a disparu depuis 20 ans et les ossements retrouvés dans la baie d'Antibes.
On avait l'espoir, et puis là, maintenant, on apprend que il serait mort. Et dans quelles circonstances? De pas savoir, c'est encore pire finalement. Tout l'espoir est perdu. Mais c'est vrai que ça fait 20 ans. On pensait qu'il serait encore vivant, qu'il reviendrait un jour. Dans quelles circonstances, on n'en sait rien. On avait l'espoir. Et maintenant, l'espoir est fini. Donc on est anéanti. Hein. Et moi, j'ai surtout de la peine pour sa mère. Parce que maintenant, elle va se demander dans quelles circonstances il est mort. Et quand est-ce qu'il est mort? C'est ça le pire. Parce que pour l'instant, elle y croit pas trop. Peut-être qu'un jour, on saura quelque chose, mais quoi? Mais je crois pas trop, hein. Je crois pas trop.
D'un mot, Cindy Hubert, vous qui avez donc interrogé tous les membres de la famille qui sont évidemment terrassés par tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
La plus touchée, évidemment, c'était sa mère, qui est aujourd'hui en Espagne, qui, dans les toutes premières années, part à sa recherche, hein, dans les caves du quartier d'Orléville, qui va explorer la gare du Nord, et puis qui, finalement, tombe dans une dépression et part en Espagne. Mm-hmm. Et donc, d'Espagne, elle a suivi ses rebondissements, et elle aussi, elle a vécu ses montagnes russes, et ça a été terrible.
Oui, bien sûr. Alors, dans un instant, on reviendra à Valérie Cormier, ma grand-mère. On reviendra également avec vous, Maître Didier Seban, sur, maintenant qu'on a pris connaissance, en fait, de l'ensemble de ce dossier, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux affaires? S'il n'y en a pas, qu'est-ce qui a pu se passer quand même pour Stéphane? On va voir ça ensemble dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Alors, Maître Didier Seban, je rappelle, est l'avocat de la famille de Stéphane Hirson. Vous suivez évidemment ce dossier de très près depuis de nombreuses années. Vous faites un lien ou pas, vous, entre la disparition de Stéphane Hirson et les découvertes en question?
Écoutez, on veut qu'on nous explique, on veut qu'on vérifie, on veut qu'on cherche. C'est ce que souhaite la famille, puisqu'elle veut connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Et donc, il y a sûrement encore des vérifications à faire. Et puis, comme vous le savez, nous sommes l'avocat de beaucoup de familles, de personnes disparues, et quatre personnes retrouvées non identifiées dans quatre ossements, c'est peut-être l'espoir d'élucider des disparitions inquiétantes ou des situations particulières.
Mais là, pour vous, ça a levé le doute, finalement, ces analyses ADN.
Effectivement, on peut penser que ça n'est pas lui.
Ouais. Alors ça, c'est un vrai espoir, parce que votre cabinet, on peut le dire, je n'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, vous défendez de très nombreuses familles d'enfants disparus, d'enfants. Là, on est avec un adolescent, un grand adolescent, un adulte, quoi. C'est plus rare. Et c'est très rare qu'on n'ait pas de nouvelles du tout, si la disparition n'est pas volontaire, non?
Ça n'est pas si rare que ça, parce que pour les enfants, on va consacrer beaucoup de temps à la recherche. Pour les adultes, on les oublie vite, et c'est le cas de Stéphane. Il n'y a jamais eu d'instruction ouverte, sauf là, depuis la découverte de ses ossements. Il y a eu des recherches très faibles. Et donc, notre espoir, et l'espoir de la famille, c'est que l'événement qu'a constitué cette annonce, eh bien, relance la volonté d'enquêter, de le retrouver peut-être vivant. C'est ce que vous disiez, Madame Magraner, mais aussi l'espoir de faire, de remonter la piste, de reprendre l'enquête au départ, de lancer des appels à témoins. Mmh. C'est notre combat parce que on sait que des années après, on arrive à retrouver la trace de personnes qui ont disparu. L'affaire des disparus de Lyon l'a montré ô combien.
Bien sûr. Alors, on va faire une pause. Ces appels à témoins, on va laisser évidemment le temps qu'il faut à Madame Valérie Cormier, ma grand-mère, pour les lancer dans quelques instants, avant la fin évidemment de cette émission. Et on va retrouver auparavant, après une pause, le professeur Bertrand Lude, le directeur de l'Institut médico-légal de Paris, qui est aussi expert auprès des tribunaux, qui nous explique un petit peu les problèmes que pose ce genre de découverte.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous allons tout de suite prendre en ligne le professeur Bertrand Lude. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Pradel.
Merci beaucoup d'avoir accepté quelques minutes, parce que je sais que vous avez en tant que spécialiste de médecine légale évidemment beaucoup de travail. Vous dirigez l'Institut médico-légal de Paris, vous êtes expert auprès des tribunaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette affaire-là sur les difficultés rencontrées par les différents analystes de ces ossements qui ont séjourné dans l'eau? Est-ce qu'on peut comment déjà savoir si c'est des os de femmes ou d'hommes? Combien de temps ils ont séjourné dans l'eau? Est-ce qu'on peut les dater, avoir une fourchette précise sur l'âge de leur propriétaire?
Donc tout dépend des éléments osseux qui sont retrouvés, de leur intégrité et du nombre de pièces osseuses qui ont été retrouvées. Donc tout dépend vraiment du matériel qui est fourni aux experts pour qu'ils puissent se prononcer. Si ces éléments sont fracturés, sont peu abondants, sont de quantité vraiment insuffisante, malheureusement, là, l'expertise ne pourra pas être pertinente et donner de bons résultats.
Donc, là, on a un fémur, deux humérus, un crâne et un morceau de mandibule.
Oui, voilà, ça, ce sont des, vous me le dites comme cela, mais il faut voir ensuite quelle est la qualité de ces os, s'ils sont érodés ou pas. Et à ce moment-là, par l'intermédiaire de mesures, par l'intermédiaire d'une étude anthropologique, on peut effectivement pouvoir dire s'il s'agit plutôt d'un homme, plutôt d'une femme. Mais ensuite, quand ça a séjourné dans l'eau, il est très très difficile de déterminer un délai post-mortem, donc le temps que ces pièces osseuses ont séjourné dans l'eau, et ensuite, pour avoir des identifications génétiques, l'eau est également un milieu dans lequel l'acide des oxydes ribonucléiques se dégrade assez rapidement. Ouais. Donc tout dépend un peu de la qualité de ce qui a été trouvé.
Et sur la datation alors des ossements, c'est-à-dire de dire est-ce que c'est des ossements qui remontent à 5, 10, 15, 20 ans, 50 ans?
Oui, quasiment. Sur des os retrouvés dans l'eau, il est très très difficile de pouvoir dater ces os. On peut avoir recours à des techniques telles que l'analyse microscopique, mais compte tenu de la dégradation de ces tissus osseux dans l'eau, il n'est pas possible d'avoir, si vous voulez, un parallélisme entre la durée dans l'eau et la dégradation de l'os.
Ouais. Même si ces os ont d'abord été enterrés, puisque c'est une des hypothèses, hein, pense qu'ils ont pu arriver dans la baie d'Antibes, soit à cause des eaux de ruissellement qui les auraient déterrés, quoi, soit parce qu'on les aurait jetés volontairement.
Non, mais il n'est pas possible là de remonter l'histoire, la pérégrination de ces eaux.
Donc, à votre avis de spécialiste, c'est que ça va être très difficile pour vos confrères qui ont en charge ces mesures. Et le mystère risque d'en demeurer un pendant encore longtemps.
C'est effectivement ce que je pense, sans avoir bien sûr vu le matériel osseux.
Bien sûr, vous n'avez pas travaillé.
Donc, c'est d'un point de vue théorique que je vous réponds et d'un point de vue d'expérience, mais pas sur le cas précis puisque je n'ai pas vu les os.
Bien sûr. Et le crâne parle, un crâne parle plus qu'un fémur ou un humérus. Ce sera ma dernière question.
Il y a d'autres analyses qui peuvent être faites sur le crâne qui permet de nouveau d'orienter vers plutôt un sexe masculin, plutôt un sexe féminin, ensuite avoir l'âge de la personne laissée. Ce sont d'autres analyses qui sont parfois pertinentes, mais là encore, tout dépend de la qualité du crâne qui est retrouvé.
Là, je me tourne en même temps vers Didier Seban. Ce que les analyses ont donné, officielles, c'est des personnes de moins de 30 ans pour les femmes, moins de 50 ans pour les hommes, et 4 personnes, en tout cas, propriétaires de ces deux hommes, deux femmes. Hein.
C'est, oui, 4 personnes différentes. Voilà. Et puis ce qui a frappé l'expert, c'est que les eaux n'ont pas été... vous savez, quand les vagues passent dessus, ainsi de suite, ils sont abrasés. Donc, ils concluent très certainement sur quelque chose d'assez récent.
Le fait séjour qu'ils soient...
Un séjour dans l'eau assez récent.
Et vous, Cindy?
Il y a un enquêteur qui disait même qu'ils étaient propres comme s'ils sortaient de la machine à laver.
Bon. Oui, ils étaient tout blancs. Voilà.
Enfin, tout ça, ça ajoute, monsieur le professeur, au fait que ça va être très difficile pour, évidemment, bien pour sûr. Avoir le fin mot de l'histoire.
Quoi. Bien sûr, mais si vous avez des eaux qui sont coincées au fond, ils n'ont pas forcément des abrasions dues, effectivement, au ressac ou au sable de la mer. Donc, tout dépend où ils sont retrouvés. Donc, là encore, ne généralisons pas, essayons de voir dans quelles conditions les eaux sont retrouvées ou auraient pu se déplacer ou être déplacées par la mer.
Eh oui, on est toujours plus pressé que la justice et que les spécialistes scientifiques, évidemment. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur. Merci.
Je vous en prie, monsieur.
Très infiniment.
Au revoir et bon après-midi.
Au revoir. L'éclairage donc de Bertrand Lutte, donc directeur de l'Institut médico-légal de Paris. On va terminer cette émission, il nous reste 3 minutes, avec Valérie Cormier, ma grand-mère. Donc je reviens vers vous, madame. Quelles sont les questions précises que vous voulez lancer au public? Vous l'avez fait d'ailleurs dans un texte qui est paru sur votre Facebook. Hein.
Mm-hmm. Moi déjà, savoir pour juste revenir 2 minutes, 30 secondes sur l'histoire des os qui n'appartiennent pas à Stéphane, mais oui. Hein, la personne qui a dit que c'était Stéphane avec certitude, j'aimerais savoir qui est cette personne, parce que franchement c'est au-delà des mots polis qu'on pourrait dire sur ce que ça a été dit et fait, du fait que ce n'était pas Stéphane. Ouais. Ça, c'est une première chose. Donc, que ce soit un procureur ou je ne sais pas qui, tout le monde se renvoie la balle entre la police et la justice, entre Paris et la région parisienne et la Côte d'Azur. Donc, ça, c'est une horreur. Ça, c'est une première chose. Mais la chose la plus importante pour nous tous, c'est de retrouver Stéphane. Au bout de 20 ans, c'est trop douloureux pour toute la famille. Mes grands-parents qui nous écoutent et que j'embrasse, et ainsi que la mère de Stéphane, qui sont en Espagne actuellement, ça fait trop longtemps. 20 ans, c'est énorme pour tout le monde d'attendre sa venue.
Alors, je vous presse un peu parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Vous pensez que quelqu'un pourrait avoir des informations qu'il n'a pas encore données?
Voilà. Donc, que cette personne parle, ou du moins déjà Stéphane, si tu nous entends, Stéphane, reviens vers nous, reviens nous voir, s'il te plaît, on a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé. Si tu veux plus nous voir après, tu nous le dis, mais au moins, viens nous voir, qu'on sache où tu es, comment, si tu es vivant et si tout va bien pour toi. Voilà, après ton histoire, c'est ton histoire, ça t'appartient, que tu sois, que tu aies des orientations de vie différentes de la nôtre, c'est ta vie, c'est pas la nôtre, mais au moins, reviens nous voir. Ça, c'est une première chose. Et s'il y a quelqu'un qui a vu, qui connaît, qui a reconnu, qui a connu Stéphane, qui n'hésite pas à contacter ou RTL, ou le cabinet Seban, ou la page Facebook Avis de Recherche Stéphane Hirson, que j'ai créée en message privé, et ne pas cette page Facebook n'est pas une page commerciale. Je ne veux pas plus de personnes qui m'envoient des recherches de quelque chose.
Sûr,
voilà.
C'est
un avis de recherche de Stéphane Hirson. C'est consacré uniquement pour lui. Mm-hmm. Et j'aimerais, et je remercie toutes les associations avec qui on est pour tout leur travail qu'elles ont fait et pour tout le monde, et je remercie le cabinet Seban et toutes ces personnes qui peuvent nous aider. On a besoin d'aide pour nous tous. On a vraiment besoin d'aide et on a besoin de retrouver Stéphane.
Voilà
ce que j'ai besoin. Et merci à tous ceux qui nous aident en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, voilà, et partout dans le monde. Voilà, on a des connexions avec beaucoup de personnes dans le monde et qu'elles en soient remerciées.
Écoutez, madame, c'est nous qui vous remercions. Je sais que c'était pas facile, évidemment, parce que vous êtes bouleversée par tout ce qui se passe.
Bien sûr.
Mais c'est aussi en faisant ce que vous faites que vous donnez les moyens. En tout cas, vous pourrez vous dire que vous avez tout essayé pour obtenir des nouvelles de Stéphane Hirson. Merci infiniment, madame.
Merci à vous. Merci.
L'émission est maintenant terminée. Merci, maître Seban.
Merci.
Et on suivra, merci, Cindy Hubert. On suivra, bien entendu, ensemble les développements éventuels de cette affaire. Mais ça, c'est la rédaction et le service public. Justice qui nous le dira certainement avant que nous le sachions nous. Dans un instant, on va retrouver Flavie Flamand et puis on va parler de demain très rapidement.